France Info.
La campagne des européennes, le scrutin, c'est dans 50 jours maintenant, le 9 juin. Il y a tout de même des airs de duel présidentiel. On parlait d'Emmanuel Macron, Émilie Zapalski. Marine Le Pen, elle, est à Mayotte, à la place de Jordan Bardella, qui est lui le candidat normalement.
Oui, et puis on l'a même entendu dire qu'elle voulait bien un débat autour de l'Europe avec Emmanuel Macron. Donc il y a cette volonté de nationaliser un petit peu cette campagne. Moi, je reviendrai sur Emmanuel Macron. Je pense que le casting de Valérie Hayer, il n'a pas été très bon. Enfin, on voit qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal, que ça soit en discours, en convention, enfin, en discours officiel ou bien
si
en débat.
Si on revient quelques semaines en arrière, on se souvient que personne dans la majorité ne voulait y aller.
Non, personne ne voulait y aller. Ceux qui pouvaient, voilà. Et puis, Attal était censé être le meilleur candidat pour contrer Bardella, en tout cas, par premier ministre interposé. Enfin, c'était comme ça que c'était présenté. On a vu Emmanuel Macron essayer d'imposer d'autres sujets, comme l'Ukraine, de refaire un petit peu le côté chef de guerre sur la fin de vie aussi, d'essayer de faire diversion ou en tout cas d'embarquer la campagne un peu sur d'autres thématiques. On voit que ça ne marche pas. Moi, je pense qu'il y a deux choses, et vous l'avez dit, c'est vrai, c'est que les conditions sont plus les mêmes qu'en 2019. Emmanuel Macron ne fait plus rêver autant. Il y a une partie de l'électorat qui est tentée, en effet, par un autre choix. Et puis, l'Europe ne fait plus aussi rêver. En tout cas, les critiques vis-à-vis de l'Europe ne viennent plus seulement de l'extrême droite. Il me semble, il y a eu des choses réussies en Europe par rapport aux crises, quand même, sur le Covid ou quoi, mais il y a eu un réveil un petit peu lent. Et il y a beaucoup plus de critiques maintenant sur ça. Avant, quand vous critiquiez l'Europe, vous étiez tout de suite taxé d'extrême droite. Maintenant, c'est beaucoup plus partagé sur certains qui disent l'Europe va pas bien, il faudrait la réformer. C'est pas pour ou contre l'Europe, mais c'est pour une Europe différente. Et du coup, Emmanuel Macron, qui est un défenseur de l'Europe, a du mal à monter sur ce sujet-là, il me semble, et je suis pas sûre que son apparition et ce début de campagne qui serait le 9 juin ait autant d'impact. Moi, j'ai l'impression que cet écart, il va être très difficile à remonter vis-à-vis du Rassemblement National.
Serge Simineau, entre la Sorbonne 2017 et la Sorbonne 2024, jeudi prochain, qu'est-ce qu'il y aura comme différence ?
Il y a effectivement les crises qui ont pu montrer que l'Europe pouvait travailler difficilement, mais quand même ensemble. Et puis, il y a malgré tout, pardon d'y revenir, il y a un contexte franco-français qui est là. C'est un président qui ne va pas se représenter, qui veut être l'un des personnages clés de l'Europe, ça c'est clair. Remettre la France peut-être à sa place avec l'Allemagne, même si ces derniers temps ça a été compliqué, en particulier avec le conflit ukrainien. Mais voilà, la différence, elle va être là. Après, souvenez-vous ce qu'il disait en 2017, une défense européenne, un budget européen. Bon, tout ça, ça se fait pas tout seul, bien évidemment. Il faut être au moins 27. Donc, c'est ça qu'on attend. Mais je crois que le contexte actuel, une tension. On disait que la campagne n'avait pas commencé. Moi, quand je dis ça, c'est la vraie campagne, c'est-à-dire programme contre programme. Il y a un contexte hyper tendu. On le voit avec l'affaire Rima Hassan, on le voit avec les attaques incessantes des uns contre les autres. Donc, c'est ça que Emmanuel Macron va devoir tenter d'éviter jeudi, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une nouvelle Sorbonne réadaptée. Ce même combat des progressistes contre le camp du repli, il doit réinventer... plus que l'Europe, il doit réinventer la majorité et Emmanuel Macron au passage.
Valérie Le Cable, Emmanuel Macron qui perd du terrain, on le voit dans les sondages avec Valérie Hayer face au Rassemblement National, face à Raphaël Glucksmann. Il perd des électeurs, justement, peut-être des électeurs de gauche originelle, on va dire, qui retournent chez Raphaël Glucksmann. On voit aussi des seniors des plus de 65 ans tentés par le vote Front National,
Rassemblement National. Il y a une grosse différence par rapport à 2019, c'est que en 2019, le Rassemblement National, le Front National à l'époque s'appelait, voulaient sortir de l'Europe et maintenant ils veulent plus. Donc ils sont devenus plus... C'est devenu possible de voter pour eux puisqu'ils ne sont plus en train de dire on va sortir de l'Europe. Et oui, les gens veulent une Europe différente. Ça, c'est vrai. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, il symbolise la même Europe. Le Rassemblement National, il symbolise une Europe plus dure. Et Raphaël Glucksmann, il symbolise une Europe plus égalitaire, plus juste, en fait. C'est ça son slogan. Une Europe plus juste, plus redistributive, et qui tienne plus compte des minorités, et qui aille plus fort sur l'Ukraine. On va en parler tout à l'heure, peut-être. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant. C'est ce jeu-là dans lequel Emmanuel Macron va être très mal à l'aise, parce que il va jouer, effectivement, la dramatisation. Il va jouer même le 6 juin, quand même. 80 ans, du débarquement avec la grande Smala, etc. Sauf que
ça sera trois jours avant le scrutin.
C'est ce qu'il a fait à la dernière élection présidentielle, mais ça a marché parce qu'il voulait être président de la République. Là, la question, c'est est-ce que ça marche pour des élections européennes? J'en suis pas sûre, parce que c'est pas le même sujet. C'est pas parce que l'Europe aura une majorité de droite ou de gauche, d'ailleurs, parce que l'Europe, c'est comme ça. Hein. Ce que représente Emmanuel Macron, Renew, c'est marginal en Europe. C'est ça qu'il faut. Et donc, l'Europe ne joue pas son destin sur le débarquement, les 80 ans du débarquement. Donc, est-ce que la ficelle, parce que l'Ukraine, la dramatisation de l'Ukraine l'a beaucoup aidé à devenir président de la République, est-ce que la ficelle va remarcher une autre fois? Parce que, une fois de plus, ce n'est pas lui qui mène la liste, en plus. C'est
on
ça.
On parlait de la dynamique du Rassemblement National, de celle de Raphaël Glucksmann. On peut imaginer, si vraiment ils sont un parti présidentiel troisième au soir du 9 juin, ce serait un séisme politique pour la majorité?
Ce serait un séisme politique. Ça c'est certain que ce sera un séisme. C'est possible. Les sondages les donnent quasiment au coude à coude. Voilà, encore une fois, il reste, vous l'avez dit, cette semaine de scrutin, cette semaine avant le scrutin, cette semaine de campagne. Faut prendre les sondages avec beaucoup de pincettes quand même, hein, à ce délai-là du vote. Donc oui, c'est possible, mais attendons de voir.
On a vu qu'en 2019, effectivement, les sondages avaient donné une avance large au Rassemblement national et que finalement, ça s'était joué dans un mouchoir de poche. Nathalie Loiseau, qu'on donnait largement perdante, c'était finalement incliné d'un point.
Pareil, hein. Non, moins d'écart, bien sûr. Sur la gauche, c'est intéressant quand même, parce qu'on voit, mine de rien, on ne sait pas évidemment ce que ça va donner au final, mais il y a une espèce d'espoir qui commence à prendre forme, à se concrétiser, alors que depuis le début, là, avec cette gauche quand même très extrémiste, tiré par Jean-Luc Mélenchon, c'était pas du tout ça. On sent cette appétence qu'ont certains, des déçus en effet de Macron qui était plutôt côté gauche, qui sont complètement perdus depuis un moment et qui retrouvent peut-être là une gauche un peu plus modérée, un petit peu plus qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Moi j'ai vu aussi un sondage qui est intéressant dans Libération, qui donne François Ruffin aussi, qui commence un petit peu... En fait, c'est un pré-paysage présidentiel 2027 qui est en train de se passer. Et si en effet, la gauche passait devant le camp présidentiel, là, on serait dans une configuration qui changerait complètement. Et d'ailleurs, ça serait un peu la reconfiguration un peu bizarre d'une extrême droite gauche, enfin d'une opposition qui soit un petit peu plus claire, alors que Macron a brouillé beaucoup de pistes là-dessus.
Faut quand même être prudent.
Mais bien
avant
sûr,
de tirer
mais en
des
tout cas, on voit l'appétence en tout cas.
Serge Simino, le PS et Place Publique devant la France Insoumise, les Verts, le Parti Communiste, etc. On va dire en leader de la gauche sociale démocrate, pour eux, ce serait déjà une victoire.
C'est un peu lié parce que c'est vrai que on le disait, il y a une partie des socialistes qui sont partis de chez Emmanuel Macron, mais il y a aussi des écologistes apparemment qui sont, on ne sait pas où ils sont, mais ils sont pas en tout cas sur la liste de Madame Toussaint. Ils sont peut-être aussi chez Raphaël Glucksmann. Alors c'est vrai que tout à l'heure je schématisais en disant qu'il parlait de lui, mais il y a une dynamique qui vient d'une espèce de réceptacle d'un certain nombre de mécontentements, mais aussi de gens qui veulent à nouveau croire au clivage, ce qui est le contraire de ce que Emmanuel Macron a développé pour devenir président de la République. Donc il y a une espèce peut-être de retour à un esprit gauche-droite. Il y a certains socialistes qui sont inquiets parce que ça fait revenir François Hollande. Donc, vous voyez, tout le monde n'y trouve pas son compte dans cette affaire.
Non, juste pour terminer sur ce sujet-là, je pense que l'après-présidentielle, ce n'est pas le moment, il y a des étapes, etc. Mais c'est vrai que si jamais cette gauche-là réussit à faire un score, même sans être deuxième, hein, mais un score correct, il y aura certainement des tentatives de recomposition de la gauche dans la perspective de 2027 à ce moment-là.